Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des Maccabées, chapitre 4. Mais Simon, le délateur qui a été dit des sommes d'argent et de la patrie, parlait mal d'Onias, comme si Onias avait inspiré à Héliodore ce qu'il avait fait, et qu'il eût été l'instigateur de ces maux. Et le pourvoyeur de la cité, et le défenseur de sa nation, et le zélateur de la loi de Dieu, il osait le dire formant des desseins contre le royaume. Mais comme cette inimitié allait si loin que même parmi quelques amis de Simon il se commettait des meurtres, Onias, considérant le danger de cette lutte, et qu'Apollonius agissait en insensé, puisqu'étant gouverneur de la Chelésérie et de la Phénicie il fortifiait la malice de Simon, se rendit auprès du roi, non comme accusateur de ses concitoyens, mais considérant en lui-même l'utilité commune du peuple tout entier. Car il voyait que sans l'intervention royale, il était impossible de pacifier les choses et que Simon ne pourrait renoncer à sa folie. Mais après la mort de Séleucus, lorsqu'Antiochus, qui était appelé le noble, lui eut succédé dans le royaume, Jason, frère d'Onias, ambitionnait le souverain sacerdoce. Étant venu vers le roi, lui promettant 360 talents d'argent et 80 talents d'autres revenus, outre cela, il promettait aussi 150 autres talents, si on lui accordait le pouvoir d'établir un gymnase et une éphébie, et d'inscrire les habitants de Jérusalem parmi les citoyens d'Antioche. Lorsque le roi le lui eut accordé, et qu'il eut obtenu la principauté, aussitôt il commença à transporter les coutumes des gentils parmi ses concitoyens, et abolissant ce que par bonté les rois avaient accordé aux Juifs par l'entremise de Jean, père de Polème, qui fut chargé d'une légation auprès des Romains, concernant l'amitié et l'alliance des Juifs avec eux, il renversait les ordonnances légitimes de ses concitoyens et sanctionnait des constitutions perverses. Car il osa établir un gymnase sous la citadelle même, et exposer tous les jeunes hommes les meilleurs dans les lieux infâmes. Et ce n'était pas un commencement, mais un certain accroissement et un progrès de la vie païenne et étrangère, causé par le crime abominable et inouï de l'impie et non prêtre Jason. De telle sorte que les prêtres ne s'attachaient plus aux fonctions de l'autel, mais que, méprisant le temple et négligeant les sacrifices, ils se hâtaient de prendre part à la palestre et à son injuste distribution de prix et aux exercices du palais. Et même, comptant pour rien ce qui faisait honneur à leur patrie, ils regardaient comme parfaites les gloires des Grecs. À cause de ces gloires, une dangereuse émulation régnait parmi eux, et ils enviaient leurs coutumes en toutes choses, ils désiraient être semblables à ceux qu'ils avaient eus pour ennemis et destructeurs. Car agir d'une manière impie contre les lois divines impunément, on n'y parvient pas, et la circonstance suivante le montrera clairement. Or, lorsqu'on célébrait à Tyr les fêtes quinquennales en présence du roi, le criminel Jason envoya de Jérusalem des hommes pêcheurs portant 310 drachmes d'argent pour le sacrifice d'Hercule. Ceux qui les avaient apportés demandèrent qu'ils ne fussent pas employés à des sacrifices, parce que cela ne se devait pas, mais qu'ils fussent destinés à d'autres dépenses. Ainsi, ils furent offerts, il est vrai, par celui qui les avait envoyés, pour le sacrifice d'Hercule. Mais à cause de ceux qui les apportèrent, ils furent employés à la construction de navires trirèmes. Cependant, Apollonius, fils de Mnesthée, ayant été envoyé en Égypte à cause des grands de la cour du roi Ptolémée Philométor, lorsqu'Antiochus eut reconnu qu'il était entièrement éloigné des affaires du royaume, consultant ses propres intérêts, il partit de là, vint à Joppé et de là à Jérusalem. Or, ayant été reçu magnifiquement par Jason et par la cité, il fit son entrée à la lumière des flambeaux et au milieu des louanges. Et de là, il retourna en Phénicie avec son armée. Et après un laps de temps de 3 ans, Jason envoya Ménélaus, frère de Simon, dont il a été parlé plus haut, pour porter de l'argent au roi et rapporter ses réponses sur des affaires importantes. Mais Ménélaus s'était rendu agréable au roi en rehaussant la grandeur de sa puissance. Fit tomber en ses mains la souveraine sacrificature en donnant 300 talents de plus que Jason. Et ayant reçu les ordres du roi, il revint, n'ayant à la vérité rien digne du sacerdoce, mais apportant le cœur d'un tyran cruel et la rage d'une bête farouche. Ainsi Jason, qui avait surpris son propre frère, trompé lui-même, fugitif, fut chassé dans le pays des Ammonites. Et Ménélaus s'empara de la souveraine sacrificature. Mais il ne s'occupait nullement de l'argent promis au roi, quoiqu'il en fût pressé par Sostrate, qui était préposé à la citadelle, car c'est à lui que la levée des tribus appartenait. Pour ce motif, l'un et l'autre furent appelés auprès du roi. Et Ménélaus fut écarté du sacerdoce, Lysimaque son frère lui succédant, et Sostrate fut préposé sur les Chypriotes. Or, pendant que ces choses se passaient, il arriva que les habitants de Tarse et de Malo excitèrent une sédition, parce qu'ils avaient été donnés à Antiochide, concubine du roi. C'est pourquoi le roi vint à grande hâte pour les apaiser, ayant laissé pour son lieutenant un des grands de sa cour, Andronique. Mais Ménélaos, pensant avoir saisi le temps opportun, déroba du temple quelques vases d'or, les donna à Andronique, et les autres, il les avait vendus à Tyr et dans les cités voisines. Lorsque Onias l'eut su très certainement, il le reprochait à Ménélaos, lui-même se tenant dans un lieu sûr, à Antioche, près de Daphné. D'où vint que Ménélaos, s'étant rendu près d'Andronique, le pria de tuer Onias. Lorsqu'Andronique fut venu près d'Onias, et que lui ayant donné la main droite avec serment, quoiqu'il fût suspect à Onias, il l'eut engagé à sortir de son asile, il le tua aussitôt, n'ayant aucun respect pour la justice. Pour ce motif, non seulement les Juifs, mais aussi les autres nations s'indignaient et supportaient avec peine la mort injuste d'un si grand homme. Aussi, le roi étant revenu du pays de la Cilicie, les Juifs et les Grecs allèrent ensemble le trouver à Antioche, se plaignant de la mort inique d'Onias. C'est pourquoi Antiochus fut contristé au fond du cœur à cause d'Onias, et touché de compassion, il répandit des larmes, se souvenant de la sobriété et de la modestie du mort. Et l'esprit enflammé de colère, il commanda qu'Andronique, dépouillé de la pourpre, fût conduit à travers toute la cité, et que dans le même lieu dans lequel il avait commis l'iniquité contre Onias, le sacrilège fût privé de la vie, le Seigneur lui rendant la punition tout à fait mérité. Cependant, de nombreux sacrilèges ayant été commis dans le temple par Lysimaque, d'après le conseil de Ménélaos, et le bruit s'en étant répandu, la multitude s'assembla contre Lysimaque, une grande quantité d'or ayant déjà été emportée. La foule donc se soulevant et les esprits étant remplis de colère, Lysimaque commença par employer environ 3 000 mains iniques armées, le chef étant un certain tyran également avancé en âge et en démence. Mais dès que l'on s'aperçut de l'entreprise de Lysimaque, les uns prirent des pierres, les autres de gros bâtons, et quelques-uns jetèrent de la cendre contre Lysimaque. Et beaucoup des siens furent blessés, et quelques-uns même succombèrent, mais tous furent mis en fuite, et le sacrilège lui-même, on le tua près du trésor. On commença donc à accuser Ménélaos de toutes ces choses. Et lorsque le roi fut venu à Tyr, 3 hommes envoyés par les anciens l'informèrent de cette affaire. Et comme Ménélaos avait le dessous, il promit à Ptolémée de lui donner une grande somme d'argent pour qu'il persuadât le roi en sa faveur. C'est pourquoi Ptolémée alla trouver le roi qui s'était mis dans un vestibule comme pour prendre le frais, et le fit revenir de sa résolution. Et Ménélaos, certainement coupable de tout le mal, le roi l'acquitta. Mais les malheureux députés, qu'ils s'ils avaient placé leur cause devant les Chites auraient été jugés innocents, il les condamna à mort. Aussitôt donc, ils subirent une peine injuste, ceux qui avaient défendu la cause de la cité et du peuple et des vases sacrés. C'est pour cette raison que même les Tyriens étant indignés, furent très généreux pour leur sépulture. Cependant, Ménélaos, à cause de l'avarice de ceux qui étaient puissants auprès du roi, se maintenait dans l'autorité, croissant en malice, pour tendre des pièges à ses concitoyens. Lecture de la Sainte Bible de Saint Jérôme, dite la Vulgate. Saint Jérôme de Stridon est docteur de l'Église. Cette traduction en français, réalisée par l'abbé Jean-Baptiste Glaire, est la seule traduction française officiellement approuvée par le Saint-Siège. Copyright jésusmarie.com le 26 février 2009. Fichier également placé sous licence Creative Commons. Le texte de la Bible de Saint Jérôme fut établi d'après les plus anciens manuscrits de la Bible. Les multiples manuscrits hébreux, sous forme de rouleaux, appartenant à la synagogue de Bethléem en Terre Sainte, et les célèbres exemples d'Origène au IIIe siècle, qui reproduisent sur 6 colonnes parallèles le texte hébreu et les 5 principales traductions grecques existant alors. Ces originaux hébreux furent détruits vers l'an 600 dans l'incendie de la bibliothèque de Césarée. La Bible Crampon et la Bible de Jérusalem sont établies d'après les textes hébreux dits massorètes, tardifs et moins fiables, ils ne remontent pas au-delà du 7e siècle. Les manuscrits découverts dans les grottes de Qumran ont manifesté la très grande fidélité de Saint Jérôme au texte hébreu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.